Parangon. Parangon, modèle type Harpagon et le parangon des avares. L'archétype des avares. Parangonnage, action de parangonner. Parangonner, art graphique, assemblé dans une même ligne de composition des caractères de corps différents de façon à ce qu'ils s'alignent ensemble.
Oh, très bien. Ça va, il n'est pas trop lourd.
Normalement, c'est électrique, ça se... C'est une équerre. Voilà. Là, c'est l'écran. C'est des vieux fusibles et en plus je sais pas.
C'est ça. Politique. Ensuite, là j'ai oublié le A. Pas un mot. Car cette parole ne se réduit pas au mot, elle est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre, si je fais ça tout, ça me fait tout reprendre, putain.
Je vais accélérer tout doucement, tu vas me dire quand ça se compte. Si on remarque X, ça fait ça. Si je retire un point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'y a plus de 7 points. Et après, ça me fait tout chambouler. Bon, on va essayer ça d'abord. On va voir. Donc, je m'appelle Jean-Claude Bernard. Je suis typographe, imprimeur, éditeur. Le fait de dire ces trois mots, pour moi, ça correspond à tout un parcours assez particulier, assez riche. Et ce parcours, il n'est pas lié au hasard. Mon père était imprimeur, il avait donc une petite entreprise, enfin très modeste, il était artisan, à Gisors, où je suis né, au nord de Paris, juste le début de la Normandie. Et donc je suis vraiment né dans le plomb, façon de parler. Et donc toute ma plus jeune enfance, les premiers bruits sont le bruit des machines, les odeurs, l'odeur de l'encre, du papier. Donc effectivement, ça laisse des traces dans la vie d'un petit garçon et même d'un jeune garçon plus tard. Surtout que mes parents ont une histoire assez particulière. Donc pour aller vite, mon père a fait faillite, donc c'était en 46, 47, 48. Et ensuite, il est parti travailler comme salarié typographe à Paris. Et pendant la guerre d'Algérie, donc dans les années 55, il a retrouvé un ami à lui qu'il avait rencontré avant-guerre, en 37-38, où ils étaient engagés politiquement comme pacifistes. Et voyant la guerre venir, donc ils ont fait un certain nombre d'interventions et ils ont été emprisonnés, condamnés. Et mon père a fait un an de prison à la prison d'Évreux. Et donc il a rencontré cet ami dans cette période-là. Et par la suite, donc dans les années 50-55, il a retrouvé cette personne qui s'était engagée politiquement à la SFIO, Parti Socialiste, et qui était devenu maire de la ville de Puteaux, qui est une ville en banlieue parisienne, et qui était devenu sénateur. Et il lui a fait la proposition suivante: est-ce que tu veux bien monter l'imprimerie du Parti Socialiste pour la région? Et mon père, il a dit oui, et donc ils ont déménagé, se sont retrouvés à Puteaux, en pleine guerre d'Algérie. Et moi, je sais, le matin, j'allais à l'école et dans le caniveau, je retrouvais des douilles parce qu'il y avait des règlements de compte entre le FLN, entre des Algériens qui ne voulaient pas donner de l'argent pour le FLN, etc. Et un jour, le quartier a été bouclé par les CRS et ils ont emmené mon père. Et j'ai su après que la nuit, ils faisaient des livres de témoignages d'étudiants arabes qui se faisaient torturer par la police française. Donc moi, à l'époque, j'avais 10 ans, quoi, grosso modo. Donc bon, c'est quand même des faits assez forts quand on est enfant. Et puis voilà, donc après mon parcours, à 14 ans, j'ai, comme à l'école, bon, ça me plaisait qu'à moitié. Et puis pour des raisons aussi relationnelles avec ma mère, enfin, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais enfin, ça compte quand même. Donc j'ai souhaité être assez autonome assez vite. Donc je suis rentré comme apprenti typographe dans une imprimerie pendant 4 ans, où j'allais une fois par semaine à l'école Estienne, qui est l'école des arts graphiques à ses côtés, assez grande réputation au niveau de l'Europe. Et donc à la fin de ces 4 ans, CAP, nana, et je suis devenu donc ouvrier typographe. Et c'était une époque assez intéressante puisqu'on pouvait voyager tout en travaillant, un peu comme le compagnonnage.
Et donc ça m'a formé, mon père me disait toujours, ne reste surtout pas dans, dans la même imprimerie, mais bouge. Et comme ça, au niveau professionnel, tu vas acquérir une certaine dextérité et voir des choses, surtout rencontrer des gens, voir des choses différentes, etc. Donc ce sera très formateur. Et effectivement, elle a entièrement raison. Et donc voilà, ça a été un peu le départ dans cette voie-là.
Eh bien, ici, on est dans le lieu dans lequel j'ai grandi, dans l'ancienne cave coopérative de Canet-Clairon, qui est un petit village du Gard. Donc moi, j'ai 25 ans bientôt, et c'est cet endroit que mon père a acheté il y a 25 ans, quand il a décidé de monter son atelier d'édition et de typographie, son imprimerie, en fait, dans le sud de la France. Lui faisait ça à Paris et il avait besoin d'un espace dans lequel je puisse grandir et un espace dans lequel il puisse installer ses machines et tout son matériel qui prend pas énormément de place. Et donc il a fait un peu le tour de ce genre de bâtiment désaffecté dans le sud et puis il a trouvé cet endroit qui est une ancienne cave viticole. Qui venait d'arrêter de fonctionner depuis quelques années et qu'il a racheté pour pas grand-chose, ainsi que la maison qu'il y avait à côté. Donc voilà, c'est cet espace dans lequel moi j'ai vécu et jusqu'à ce que je parte pour faire mes études. J'ai toujours été heureux de revenir ici. C'est toujours un endroit qui me fascine et duquel émane autant de poésie, autant de... parce que j'ai un affect profond pour cet endroit, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé le faire découvrir aux gens, et il y a toujours des réactions assez enjouées et émerveillées face à ce lieu. Donc j'ai amené plein de groupes d'amis à passer du temps ici, et toujours avec cette idée en fait que j'ai depuis que je suis tout gamin, en fait, de recréer un petit peu à ma manière, mais de recréer un peu ces grands moments de rencontre qui avaient eu lieu quand j'avais 7-8 ans. Et du coup, là, c'est en train de se concrétiser depuis un an et demi maintenant avec le collectif qu'on a monté, du coup, qui s'appelle Silo. Et là, actuellement, on est en train de vraiment se réapproprier cet endroit, en tout cas la partie... supérieur de l'espace, et on est en train de le reprendre en main d'une certaine manière, de lui redonner un peu un second souffle, lui réinsuffler une nouvelle énergie et pour qu'il rayonne à nouveau quoi.
Et c'est beau de rester ici aussi.
Par la suite, c'était assez... C'est drôle, c'est pas le mot qui convient, mais ce qu'avait vécu mon père dans sa période, moi, je l'ai revécu d'une façon presque similaire. Où à l'époque, bon, moi, j'ai commencé à militer assez tôt, dans les auberges de jeunesse, donc à l'âge de 14 ans, 15 ans. Et on a monté une imprimerie. Je faisais partie d'une organisation trotskiste à l'époque. Et on a monté une imprimerie pour imprimer nos revues, notre journal, etc. Et après, on était à Paris, rue du Château d'Eau. Et ensuite, on a imprimé pour les autres, c'est-à-dire pour d'autres organisations politiques. Et avant 68, en 66, 67, il y avait un journal qui s'appelait Tout, qui était le directeur, c'était Jean-Paul Sartre, avec Gessmar et compagnie, à l'époque, dirigeant de l'UNEF. Et donc, on faisait ce journal. Et on a travaillé comme des malades, jour et nuit, il fallait que ça sorte tel jour. Et le jour où ils viennent, le journal était prêt, et le quartier était complètement bouclé par les CRS, les flics, enfin bon. Et je leur dis, ne vous inquiétez pas, à Paris, on monte tout en haut, il y a des petites ouvertures sur les toits, c'est des toits en zinc qui ne sont pas très inclinés, donc on peut facilement, sans risque, sans grand risque, marcher sur les toits en zinc, et puis, hop, aller un peu plus loin et redescendre par un autre immeuble, ce qui fait qu'on peut échapper assez facilement en connaissant bien la distribution des rues, etc., on peut échapper facilement au CRS à ce moment-là. Et donc, c'était assez folklorique quand même de les voir partir avec leur paquet de journaux sous le bras pour échapper au CRS. Bon, voilà, donc c'est des petites histoires comme ça, assez sympathiques quand même. Et puis, bon, et puis voilà. Donc ça, c'était ma période un peu militant et lié toujours, donc voilà, la liaison avec l'imprimerie, elle est toujours là, parce que c'est un métier qui est non seulement passionnant, mais qui a toute une histoire. Les typographes étaient, c'est eux qui avaient la connaissance, le savoir, à l'époque, après Gutenberg, ils connaissaient le grec, le latin, etc. Bon, c'était des puits de science, les mecs. Bon, ça quand même, après, jusqu'au 19e siècle, après, un peu moins quand même. Mais enfin, bon, il y a une longue histoire, et c'est une corporation qui est restée très, très combattante, très à l'avant-garde du mouvement ouvrier. Et donc, moi, j'aime ce métier, mais c'est aussi toute cette histoire qui me font aimer ce métier, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse, quoi. Donc, après ces années, comme beaucoup, juste après, en 70, il y a eu un séjour à la campagne, en Haute-Loire, pendant 10 ans. Et après, donc, après une période un peu de recherche, de savoir où j'allais, qu'est-ce que j'allais faire, etc., j'étais un peu paumé quand même. Donc après avoir fait un stage à Lyon à la Chambre de commerce, j'ai décidé de devenir éditeur. Alors, j'ai rencontré, c'était l'époque où la première génération de ce qu'on appelait les petits éditeurs, des gens donc qui se sont installés dans cette période-là. Je suis allé les voir, j'ai fait un petit tour de France, discuté avec eux, puis je me dis, mais tiens, avec mon petit savoir, ben voilà ce que je pourrais faire. Donc voilà, l'idée est partie de ce stage à Lyon, et j'ai essayé après de concrétiser cette idée. Alors, donc je suis arrivé... Alors pourquoi je suis arrivé à Cannes ? Parce que j'ai eu... Théo est né à Paris, donc mon fils. Et moi, je ne voulais pas rester à Paris avec un bébé. Et donc, avec sa mère, elle m'a suivi, plus exactement. Et donc, je suis arrivé dans cette région, j'ai des amis. Donc, j'ai cherché, et j'ai trouvé, j'ai trouvé cette cave coopérative qui était en vente. C'est-à-dire, c'était des grands bâtiments, enfin, c'est toujours des grands bâtiments, mais ça correspondait plus à une politique vinicole à ce moment-là. Donc, il y avait un certain nombre de caves qui pouvaient être achetées. Et c'était pas très cher, même pas cher du tout, à l'époque. Parce que c'est des bâtiments tellement immenses que ça peut effrayer beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on va faire dans un lieu pareil, une hauteur aussi grande bon. Et donc, moi, j'étais tout de suite emballé, complètement flashé sur cet endroit. Et voilà comment l'histoire de l'édition a commencé à Cannes. Et c'est drôle que ça s'appelle Cannes éclairant. J'en ai eu plusieurs, parce qu'à un moment j'avais tout un parc de machines assez important. C'était un peu été une boulimie, parce que je voyais tout partait comme ça. Je me suis dit, en même temps, je vais pas faire un musée, faire un conservateur.
Donc évidemment, cet endroit, il est immense. Il a plein de recoins dans lesquels on peut faire tout un tas de choses. Et forcément, il est de par ses dimensions et de par aussi la pratique de mon père, enfin son métier, il a suscité énormément de curiosité. Et puis c'était aussi la volonté de mon père de faire de ce lieu, un lieu de rencontre, un lieu de création artistique, un endroit dans lequel il y a un endroit qui permet plein de choses et des projets assez fous de se réaliser. Et après, je pense que c'est lié énormément au métier d'éditeur, mais un éditeur, c'est quelqu'un qui et mon père, c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça, puisque c'est une toute petite maison d'édition. Qui fonctionne vraiment au coup de cœur, qui a pas de ligne éditoriale bien précise et tous ces bouquins sont le fruit de rencontres en fait entre des gens qui l'apprécient pour leur qualité humaine et aussi pour leur qualité d'artiste. Enfin, disons que dans cet espace qui est un espace à la fois de travail et de vie, ces deux choses-là, le professionnel et le quotidien ont tendance, enfin c'est pas une tendance, c'est même carrément le cas. Ont complètement fusionné et du coup c'est un lieu qui a énormément ce métier d'éditeur pousse à la rencontre et le but d'un éditeur, c'est de mettre en avant en fait les pratiques artistiques des autres et de mettre en page, en texte, en livre en fait le travail d'écriture, le travail de peinture ou le travail plastique d'artiste ou autre. Et donc ce lieu, il a toujours fonctionné comme ça, comme un endroit dans lequel on accueillait des artistes, dans lequel on accueillait des écrivains, dans lequel on accueillait toute une foule de gens, une faune assez assez bigarrée de personnalités, et à d'autres occasions des chanteurs, des gens qui sont venus aussi essayer l'acoustique de l'ensemble de ces cuves, puisque c'est autant de chambres de résonance en béton. Il y a aussi eu des acrobates qui sont venus se suspendre aux grandes charpentes métalliques. Il y a eu des cracheurs de feu. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Donc, évidemment, pas au quotidien. Il y a toujours eu beaucoup de gens qui passaient à la maison. Malgré le fait que c'est aussi un lieu qui est immense, rempli aussi de vide. Et pour un enfant, quand on se balade là-dedans, ça peut être impressionnant. Enfin, c'est à la fois un terrain de jeu sans fin et à la fois un endroit qui peut être assez flippant à certains égards. Et donc, à de multiples reprises, il y a eu des festivals qui ont été organisés dans la cave, où voilà, se côtoyaient des manifestations musicales, du cinéma en plein air, des lectures de poésie, des marathons d'écriture, des acrobaties dans les airs, énormément de choses en fait, des expositions et vraiment vraiment énormément de choses, toujours dans une belle ambiance, avec des prétextes à se retrouver avec les vieux copains, à découvrir ce que les uns et les autres avaient fait pendant leur absence. Enfin voilà, c'était ce lieu a toujours eu cette vocation à accueillir des gens, à réunir les gens ensemble, quoi.